Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'autre devient l'ennemi, un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse, deuxième de 6 articles. La mort comme moteur. Le chercheur américain Sheldon Solomon estime qu'un autre aspect fondamental de la condition humaine doit être pris en considération pour comprendre la récurrence de poussées de xénophobie, à savoir la peur de la mort. Citation : Une de nos particularités est que nous sommes conscients de notre existence, mais aussi de notre finitude, du fait que nous sommes tous irrémédiablement appelés à mourir. Fin de citation, note le chercheur en psychologie sociale du Skidmore College dans l'État de New York. Cette connaissance propre à l'homme est à la source d'une terreur existentielle paralysante à laquelle l'individu tente d'échapper par la culture. Note le chercheur qui se réfère à ce sujet aux travaux d'un anthropologue américain, Ernest Becker, ayant publié un livre primé à ce sujet dans les années 1970. L'ensemble de valeurs et de croyances qui constituent cette culture permet de juguler l'angoisse existentielle en donnant un sens à la vie de l'individu qui y adhère. La confrontation avec des représentants d'une autre culture a cependant un effet perturbateur parce qu'elle peut venir invalider la construction symbolique à laquelle la personne se rattache. Citation : Si on accepte la culture d'un autre, ça revient à miner la confiance qu'on a dans la nôtre. C'est pourquoi on se sent mal à l'aise devant des comportements qui nous sont étrangers. Fin de citation, explique Sheldon Solomon. La réactivation de la peur de la mort est largement subconsciente, indique M. Solomon, qui a développé avec des collègues une série d'expériences pour mesurer la réalité du phénomène. Ces tests, résumés notamment dans un ouvrage paru en 2015 intitulé « The Worm at the Core », visait par exemple à voir comment évoluait le comportement d'individus exposés à des messages subliminaux relativement à la mort. Ils ont notamment permis de démontrer que des personnes soumises à ce processus se montrent plus hostiles envers l'étranger. Le phénomène est encore plus prononcé, dit-il, dans des environnements où les gens se sentent fragilisés et peut devenir un outil précieux pour des dirigeants autoritaires en mal de popularité. Citation : Je compare ces dirigeants à des alchimistes psychologiques qui cherchent à transformer la peur en haine et visent à la détourner de ses causes véritables en désignant les autres, surtout les migrants, comme responsables. Fin de citation, note M. Solomon. C'était « Quand l'autre devient l'ennemi, la mort comme moteur », un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse. Deuxième de 6 articles.
Quand voir ne suffit plus. C'est un billet de François Cardinal qui est l'éditeur adjoint de La Presse. Son texte est publié dans l'édition du 15 février de ce journal. Vous avez vu la photo d'une manifestante noire retouchée de manière éhontée par la Maison-Blanche il y a quelques semaines? Le 22 janvier dernier, l'avocate Nekima Levi-Armstrong, lors d'une manifestation au Minnesota, Christine Noem publie une photo d'elle menottée, le visage calme. Et 33 minutes plus tard, la Maison-Blanche diffuse la même image, mais avec le visage retouché, des larmes ajoutées, une peau assombrie. On n'est plus dans le mensonge classique. On est dans la fabrication d'un environnement émotionnel. Un acte de pure propagande, sans gêne, sans excuse. C'est inquiétant. Mais ce qui l'est tout autant, et de manière plus sournoise, c'est ce que cette affaire révèle en creux. La mise en scène du réel est de plus en plus fréquente et pas juste de la part de l'administration Trump. Aujourd'hui, quiconque possède un accès Internet peut créer une réalité alternative qui a tout de la vérité. Les exemples récents foisonnent. Prenez cette photo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux le soir des Grammy Awards au début du mois. On y voyait Justin Trudeau et Katy Perry foulant le tapis rouge ensemble. Rien de plus banal. L'image ressemblait à toutes celles que le couple diffuse depuis un moment. Mais l'image était fausse. Pour le détecter, il fallait jouer au détective. Le logo de Getty ressemblait à l'original, mais avec des variations subtiles. Le photographe crédité, un certain Andrew Bryan, n'existe pas. Le décor du tapis rouge ne correspondait pas aux photos officielles de la cérémonie. La fausse image provenait finalement du compte d'un utilisateur de X sans mention de la fabrication. Les médias l'ont détecté et ne l'ont pas publié. Mais ce que je retiens, c'est le changement de nature de la tromperie. L'ancienne désinformation disait souvent, citation, « Cet événement n'a pas eu lieu », fin de citation, « L'homme n'a pas marché sur la Lune », « Les chambres à gaz n'ont pas existé ». La nouvelle tromperie, elle, fabrique la photo d'un événement qui n'a pas eu lieu, avec tous les attributs visuels de l'authenticité. Autre exemple, la capture de Nicolas Maduro le mois dernier. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce de son arrestation, les réseaux ont été inondés d'images spectaculaires au moment où l'on cherchait à comprendre ce qui se passait. Or, ces « photos » entre guillemets avaient été générées par des internautes anonymes utilisant des outils d'intelligence artificielle grand public du type Nano Banana, puis diffusées massivement sur X, TikTok et Truth Social. Cette production rapide, décentralisée et virale de faux visuels a précédé et parfois supplanté les images authentifiées. Dans les jours suivants, les vérificateurs de faits en ont débusqué d'autres, mais combien ont circulé sans être corrigés? Dernier exemple, plus complexe et plus troublant encore d'un point de vue médiatique, celui de Casey Newton, journaliste du site Platformer et co-animateur de l'excellent balado Art Fork du New York Times, qui a été victime d'une tentative de tromperie sophistiquée. Sur Reddit, il est tombé sur un témoignage anonyme dénonçant des pratiques frauduleuses d'une application de livraison de repas populaire. Selon ce supposé lanceur d'alerte, un algorithme calculait, à leur insu, un score de désespoir pour chaque livreur, et plus le score était élevé, moins les courses offertes étaient payantes. Crédible quand on lit les conditions dans lesquelles travaillent les livreurs d'Uber, telles que les a décrites notre journaliste Éric Martel. Newton a donc contacté le livreur en lui demandant bien sûr des preuves. L'homme lui a envoyé un badge d'employé, puis un document technique de 18 pages, truffé de graphiques et de formules, qui semblait corroborer ses allégations. Newton l'admet franchement, malgré sa grande expérience, le document l'a d'abord trompé. Ce n'est qu'en accumulant les signaux d'alerte, faute d'orthographe dans les messages Signal, alors que le texte Reddit était impeccable, refus de fournir toute identification, pression pour qu'il publie rapidement, quand il a commencé à douter. En soumettant le badge à Google Gemini, le robot a avoué qu'il avait lui-même généré l'image. Confronté, le soi-disant lanceur d'alerte a disparu en quelques minutes, et ce, après avoir créé une mise en scène très élaborée de toutes pièces et probablement en quelques minutes à peine. C'est là que l'enjeu se corse pour les salles de rédaction. On le voit avec ces trois exemples. Il ne suffit plus de corriger une affirmation fausse, il faut déconstruire des univers narratifs complets. Il faut détricoter des réalités parallèles munies de leurs propres preuves visuelles et documentaires. Comme l'a dit un expert de la désinformation consulté par Newton, les grands modèles de langage de l'intelligence artificielle sont devenus des armes de fabrication massive. Ils permettent d'inonder les réseaux sociaux et, par la bande, les journalistes, de faux documents suffisamment crédibles pour mériter attention et examen. Et le temps qu'on passe à démêler le faux est du temps qu'on ne consacre pas à révéler le vrai. C'est peut-être là, au fond, que la désinformation nous fait le plus mal collectivement. Fin de ce billet de l'éditeur adjoint de la presse, François Cardinal, titré « En voir ne suffit plus », publié dans l'édition du 15 février de la presse.
Comment prendre soin de sa peau en hiver? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 décembre 2025 dans la presse. Protéger sa peau est une habitude pour beaucoup associée à l'été. Pourtant, la saison froide amène aussi son lot de défis et de risques, comme la sécheresse, la démangeaison et bien sûr l'eczéma. Comment prendre soin de sa peau quand le temps froid revient? On fait le point avec deux dermatologues. Différents effets. Quand il fait froid, entre les mois d'octobre et d'avril, plusieurs choses ont influencé la santé de la peau, indique d'emblée la dermatologue Elena Netchiporuk, professeure adjointe à l'université McGill. L'ensoleillement diminue et le risque d'infection augmente. On va moins à l'extérieur, on recouvre davantage notre peau et évidemment, on subit le froid, le vent et la sécheresse des maisons chauffées. Ça va augmenter la sécheresse de la peau et donc le risque de faire n'importe quelle condition qui pique, résume la dermatologue. Attention à l'eczéma. L'eczéma a tendance à s'aggraver en hiver. Au Canada, à cause du climat, on est reconnu pour avoir de l'eczéma beaucoup plus sévère que d'autres pays, et surtout dans la saison hivernale, souligne le dermatologue Joël Claveau, professeur de clinique à l'Université Laval. L'eczéma atopique se développe souvent chez les personnes qui souffrent d'asthme ou du rhume des foins et se traduit par des plaques rouges et sèches. En hiver, les dermatologues voient aussi plusieurs cas d'eczéma numulaire, des plaques qui ressemblent à des pièces de 2 dollars, et d'eczéma craquelé, la peau des jambes est si sèche qu'elle craque. Barrière cutanée. Le principe de base pour prévenir la sécheresse, la démangeaison et même l'eczéma, protéger sa barrière cutanée, qu'on peut comparer à un mur de briques et de mortier. Les briques sont des cellules de la peau et le mortier, les huiles naturelles de la peau, acides gras libres, triglycérides et céramides. Cette huile est là pour vous protéger de tous les agents externes et pour conserver l'humidité, explique la docteure Netchiporuk. Il ne faut donc pas laver sa peau comme un plat de lasagne sale. C'est encore plus vrai en vieillissant, dit-elle. Après 65 ans, ou même après la ménopause chez la femme, la peau devient plus sèche, plus fragile, comme celle d'un bébé, illustre la dermatologue. Douche courte et tiède. Les gens dont la peau est sujette à l'eczéma ou simplement fragile ou sèche ont intérêt à éviter les longues douches chaudes. Agréable soit, mais néfaste pour la barrière cutanée. Il y a même des dermatologues qui recommandent de se laver deux fois par semaine plutôt que tous les jours, observe le docteur Claveau. À ces patients à la peau atopique ou fragile, il conseille plutôt de s'en tenir à des douches de 5 minutes, à l'eau tiède, en utilisant le savon sur les aisselles, l'aine et les parties génitales seulement. On lave seulement les endroits qui puent, résume Elena Netchiporuk. À ceux qui craignent d'être sales, la dermatologue rappelle ceci. La peau se renouvelle tous les 14 à 21 jours. Savon doux. Aux gens à la peau sensible, les dermatologues recommandent généralement des savons doux, comme les savons sans savon. Ces détergents synthétiques, surnommés syndettes, sont formulés pour respecter le pH naturel de la peau, environ 5,5. Ils moussent un peu moins, mais ils sont beaucoup moins irritants, explique le docteur Joël Claveau. Plusieurs grandes entreprises formulent des syndettes, tant liquide que solide, comme le populaire pain de beauté de Dove. Mieux vaut opter pour des produits non parfumés. Quant aux savons naturels, ils sont en général trop alcalins pour la peau, à l'exception de certains savons à la glycérine, note la docteure Netchiporuk. Enfin, le docteur Joël Claveau recommande de laver ses vêtements avec des détergents doux, avec extrait rinçage, pour éliminer les résidus de savon. Crème et lotion. Les gens qui ont la peau sujette à la sécheresse, à la démangeaison et à l'eczéma ont aussi avantage à l'hydrater. À quel moment ? En sortant de la douche, lorsque la peau est humidifiée.
pour bien conserver son hydratation. Crème et lotion, quelle est la différence? La crème, c'est un peu d'eau dans de l'huile et la lotion, un peu d'huile dans l'eau, résume le docteur Claveau. Les crèmes sont donc plus efficaces. Pour les gens réticents à en mettre, les hommes poilus par exemple, une lotion est mieux que rien, indique le dermatologue. Les adolescents sujets à l'acné, dit-il, devraient pour leur part privilégier des produits non comédogènes, comme des fluides hydratants. Gare au soleil. Comme le soleil est plus bas dans le ciel en automne et en hiver, les rayons ultraviolets sont moins intenses, mais la peau n'est pas protégée du soleil pour autant, prévient le dermatologue Joël Claveau. Il n'est donc pas rare d'attraper un coup de soleil au visage lorsqu'on passe la journée à l'extérieur, souligne le docteur Claveau, qui rappelle que les rayons UV réfléchissent sur la neige. Autre chose à savoir, les rayons UVA, ceux qui pénètrent en profondeur dans la peau et qui la font vieillir, sont pratiquement aussi intenses en hiver. Ils traversent même les nuages. La solution, appliquer de la crème solaire sur son visage tous les jours. C'est d'ailleurs une bonne crème hydratante, conclut-il. C'était « Comment prendre soin de sa peau en hiver ?» un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 décembre 2025 dans la presse.
Pourquoi boire de l'eau? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 28 décembre 2025 dans Le Devoir. Chaque fin d'année, Google publie le palmarès des recherches de ses utilisateurs. Qu'est-ce que les Québécois se sont demandé cette année? Le Devoir revient sur certaines questions du palmarès en y répondant. Premier arrêt. Pourquoi boire de l'eau? Le corps fonctionne avec de l'eau, avec des liquides. On en a besoin, on n'a pas le choix, répond d'emblée la nutritionniste sportive Cécile Dano en entrevue. On ne peut même pas survivre plus de 3 jours sans boire de l'eau. C'est la base. Finalement, le sang est fait avec de l'eau. Notre digestion fonctionne avec des liquides. Notre température corporelle est capable de se maintenir avec de l'eau. C'est à peu près impossible de s'en sortir sans. La réponse peut donc paraître évidente. Le corps humain a besoin d'eau pour s'hydrater et ainsi fonctionner. Mais, souligne Mme Dallo, il est possible d'atteindre un bon niveau d'hydratation avec à peu près n'importe quel liquide. Exception notable pour le café, puisque la caféine est un diurétique, ce qui fait uriner davantage, et l'alcool, qui est déshydratant. À peu près n'importe quel liquide peut hydrater quelqu'un, mais ils ne sont pas nécessairement bons pour la santé non plus, souligne la nutritionniste. On peut s'hydrater avec du lait toute la journée, mais ça va finir par être trop de lait. Le seul liquide qui n'a pas d'effet négatif, c'est l'eau, poursuit-elle. C'est donc la meilleure boisson pour s'hydrater efficacement. Apprendre que la question a été posée par beaucoup de personnes cette année a en quelque sorte surpris Cécile Dallo, qui se serait attendue à avoir davantage de questions sur des nutriments ou des aliments qui ont eu plus d'attention dans les médias que l'eau, comme les protéines ou la vitamine D. Cette dernière voit toutefois d'un bon œil la place de l'eau dans le palmarès, puisque l'hydratation, c'est hyper important, mais on n'en parle pas souvent. Mme Dallo émet l'hypothèse que beaucoup de Québécois s'interrogent sur les divers éléments que l'on peut ajouter à l'eau, comme les poudres et les jus qui lui donnent de la saveur ou encore des vitamines, des électrolytes ou du sucre. Bien que ces ajouts puissent être consommés, ils peuvent devenir nuisibles en excès. La dose limite de chaque individu pour différents produits dépend d'ailleurs de divers facteurs propres à chaque personne, note-t-elle. Des fois, même les bulles dans l'eau gazeuse, ça peut créer de l'inconfort intestinal. Dans son travail, la nutritionniste se fait régulièrement demander par ses clients comment ils peuvent augmenter leur consommation d'eau. Associer l'action de boire à l'eau à une autre, comme manger ou se laver les mains, peut être un bon truc, dit-elle. Se procurer un beau verre qui donne envie de boire, ou bien ajouter des infusions de tisane ou de menthe à son eau, peuvent être d'autres moyens pour boire plus d'eau. Les 10 recherches en « Pourquoi » les plus populaires en 2025 au Québec. Pourquoi Amazon ferme au Québec? Pourquoi Israël attaque l'Iran? Pourquoi Zelensky ne porte pas de costume? Pourquoi TikTok est interdit aux États-Unis? Pourquoi Sarkozy va en prison? Pourquoi Taylor Swift a été hué? Pourquoi Justin Trudeau démissionne? Pourquoi il n'y a pas de « salut bonjour » ce matin? Pourquoi voter conservateur? Pourquoi boire de l'eau? C'était « Pourquoi boire de l'eau? » un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 28 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le truc du 1% pour dépenser sans stresser, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse. Marc, un lecteur, m'a écrit l'autre jour avec une question intéressante. Comment ne pas culpabiliser en dépensant de l'argent quand nos objectifs d'épargne annuelle sont atteints? Demande-t-il. Marc dit avoir le réflexe d'épargner davantage par peur de manquer d'argent. Or, je n'en manquerai probablement pas, puisque je vais avoir droit à un fonds de pension gouvernemental en plus de mes épargnes personnelles. Et mon train de vie est simple et peu élevé. Je pense que plusieurs lecteurs de cette rubrique se reconnaîtront dans cette question. Les gens occupés à dépenser ne se rendent généralement pas ici, même si j'essaie de les attirer avec mes titres aguicheurs et mes séduisantes explications de la puissance sans limite des intérêts composés, à prononcer avec la voix rocailleuse d'une pub de Dodge Ram. Dans le fond, ce que Marc demande, c'est « Comment sortir de ma zone de confort ?» Revenons donc à l'essentiel. Pourquoi épargne-t-on ? Personnellement, c'est par désir de gagner en indépendance, d'avoir davantage de contrôle sur ma vie. Comme le disait le milliardaire Charlie Munger, partenaire d'affaires de Warren Buffett, « Je n'avais pas l'intention de devenir riche. Je voulais devenir indépendant. J'ai simplement dépassé la cible. » Vous aussi, Marc, vous dépassez la cible. Et une fois qu'on a dépassé la cible, on fait quoi? On arrête de stresser et on apprend à dépenser. Le truc du 1%. Le blocage qui nous empêche de dépenser est souvent psychologique. Donc, la solution est psychologique également. Une approche qui m'aide à dépenser sans paniquer est le truc du 1%. On commence par calculer sa valeur nette. Les actifs moins les dettes. Placement non enregistré, REER, CELI, équité dans la maison, tout entre dans ce calcul. Ensuite, on calcule 1% de cette somme. Pour une personne qui a 25 000 $ de côté, le 1% est 250 $. Pour quelqu'un qui a 250 000 $, on parle de 2 500 $. Si on hésite à faire une dépense inhabituelle, ou alors si on doit payer pour un imprévu, on compare la somme dépensée avec le 1%. Si elle est inférieure, ça ne sert à rien de s'en faire. Ça permet de garder les choses en perspective et d'arrêter de stresser pour des dépenses qui, ultimement, sont dans la marge d'erreur de nos finances. Je ne dis pas de dépenser 1% de notre valeur nette toutes les semaines. Ce serait une belle façon de perdre le contrôle de nos finances. Seulement, de ne pas être inutilement sévère envers soi-même lorsque de l'argent quitte notre compte bancaire. Maintenant qu'on a donné à Marc le feu vert pour dépenser, vient la question plus intéressante encore : comment dépenser notre argent ? On croit souvent que cette question est purement subjective. Marie aime aller au Carrefour Laval. Olivier veut changer de voiture. Jacques aime le bon vin, etc. Pourtant, la science se penche depuis longtemps sur la question et les résultats sont parfois contre-intuitifs. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology
en 2020, a montré que les gens tiraient davantage de satisfaction des expériences, voyages, divertissements, activités de plein air, etc., que des achats matériels, vêtements, bijoux, meubles, gadgets. Et c'est vrai, tant dans le moment que lorsque les gens étaient questionnés après coup. Donc, dépenser pour un voyage en famille donnera plus de plaisir et de meilleurs souvenirs que dépenser pour rouler dans une voiture de l'année à laquelle on finit par s'habituer et cesser de porter beaucoup d'attention. Dans son livre « Balance, Investing and Spending for Happiness and Wealth », que je vous recommande, l'auteur canadien Andrew Hallam note aussi que dépenser pour les autres nous procure plus de bonheur que de dépenser pour soi-même. Dans une expérience publiée par l'Association américaine de psychologie, des chercheurs ont donné des enveloppes contenant 5 ou 20 dollars à des participants. Ceux-ci avaient pour mission de dépenser l'argent avant 17 heures le jour même. Mais il y avait une consigne. La moitié devait dépenser l'argent pour se faire plaisir, tandis que l'autre moitié devait dépenser l'argent pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Lorsque les chercheurs ont contacté les participants à 17 heures, ils leur ont demandé de leur donner leur niveau de bonheur. Ceux qui avaient dépensé l'argent pour quelqu'un d'autre ont rapporté avoir un niveau de bonheur plus élevé, écrit Hallam. Dans son livre, Andrew Hallam raconte avoir plusieurs fois payé secrètement l'addition d'un client ou d'un couple durant l'heure du lunch au restaurant. Pas pour être un saint. Juste pour rigoler avec un ami, ils aimaient voir le visage des gens lorsque le serveur leur annonçait que quelqu'un avait payé leur repas. Jamais ils ne soupçonnaient que ça venait de lui. J'ai fait plein de trucs drôles dans ma vie. Et j'en ai oublié la plupart, écrit-il. Mais je me souviens presque de chaque fois où j'ai anonymement payé pour quelqu'un au restaurant. Voilà, Marc, des idées pour dépenser. Vous me ferez part de vos progrès, ou de l'absence de progrès. On pourra se mettre à plusieurs pour vous aider à faire pleuvoir l'argent. C'était le truc du 1% pour dépenser sans stresser, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 septembre 2025 dans la presse.